I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. On parle de PC, de console, de mobile, parce qu'il y a des choses hyper intéressantes qui se passent sur mobile également. Nous sommes en mars 2021, c'est l'épisode numéro 179, rendez-vous compte, il y a eu 178 épisodes jusqu'ici, déjà comme le temps passe. Je suis Patrick Béja et je remercie très chaleureusement les Patriotes de soutenir l'émission. Ils sont aujourd'hui Clément Chausson, Eddy Sarret, Alexandre Bourgin, Turlu, Lututu, Ludovic Dupuis, Vizou et le producteur de cet épisode, Lancelot Davizard, que je préfère largement à Perceval d'ailleurs, je suis sûr qu'on ne lui a jamais fait. Mais merci à vous tous, merci à tous les Patriotes de soutenir l'émission sur patreon.com/rdvjeux. Et merci aussi et surtout à Daniel Charby et Kassim Ketfi de participer à cet épisode également. Comment ça va, Dany ?
Eh ben, écoute, tout va bien, confiné, la vie suit son cours, ça laisse beaucoup de temps pour terminer Netflix, Disney Plus et tous les autres, et malheureusement ne pas effleurer l'immense liste de jeux vidéo que j'ai à faire. Donc,
ouais, voilà. Je comprends.
J'aimerais avoir plus de temps.
Comme tu t'es précipité sur le Snyder Cut de Justice League et que tu l'as vu quatre fois, ça t'a occupé six jours. Donc je comprends.
J'ai
bien
analysé image par image tous les plans au ralenti et j'en ai tellement profité. Non, je rigole, j'aime pas Justice League et je ne regarderai pas les Snyder Cut.
Écoute, je suis en train et je ne te reprocherai pas de ne pas le regarder. On a également Kassim, comme je le disais, qui est avec nous. Comment ça va, Kassim ?
Ça va très bien. Là, je revenais sur les 278 épisodes du rendez-vous jeu. Il y a quand même quelques-uns qui sont de meilleure qualité que d'autres, mais je ne dirai pas lesquels.
Alors, c'est 178 seulement. Tu me prêtes une longévité que je n'ai pas encore. Mais oui, certains dont les invités, le nom, les initiales des invités commencent, sont C et K, j'imagine. Moi, ceux-là, je les aime.
Évidemment.
Bon, écoutez, je suis content de vous avoir tous les deux, non pas pour discuter du Snyder Cut, dont on parlera peut-être un jour dans Super Laser Punch, où on parle de tous les épisodes de séries Marvel, peut-être qu'un jour on viendra à DC, mais on va parler de séries de news et de rumeurs encore plus rocambolesques, puisqu'il y a Sony qui a racheté Levo en partenariat, mais on va expliquer. Il y a des rumeurs sur des acquisitions nouvelles de Xbox, enfin de Microsoft, qui pourraient toucher à Discord, voire qui pourraient avoir un partenariat avec Ubisoft, des choses comme ça. On a aussi tout le Square Enix Presents à résumer. On a aussi des rumeurs sur la Nintendo Super Switch. Je tiens à ce nom, je n'en démords pas. Ou Super Nintendo Switch peut-être. Mais aussi Qualcomm qui ferait un téléphone Android qui serait en fait une console Switch-like. Très intéressant tout ça. On va en parler dans un instant, mais on va commencer avec la vraie annonce solide de cette semaine. C'est le rachat de Levo par Sony et par une société qui s'appelle RTS, qui est en fait un... peu importe, en fait, on s'en moque un petit peu. Sony et RTS se sont alliés pour racheter Levo. Il serait intéressant de savoir si Sony a la majorité de cette joint venture. Mais encore plus intéressant, c'est ce qu'est Levo. C'est marrant parce que j'ai fait, il y a trois semaines, une vidéo sur les jeux de combat et la beauté du Moment 37 sur YouTube. J'expliquais ce qu'est le Moment 37 qui vient de Levo. Et Levo, c'est le championnat de jeux de combat le plus important de l'histoire du jeu vidéo. C'est celui qui a lieu tous les ans, bon, sauf l'année dernière, parce qu'il y a eu une série de scandales en plus de la pandémie qui ont donné lieu à l'annulation de l'Evo de l'année dernière, qui n'a pas pu se tenir en ligne. Mais tous les ans, c'est un tournoi hyper communautaire qui couvre toute une série de jeux de combat. Et c'est très certainement l'événement e-sport majoritaire le plus important du monde du jeu de combat dans les jeux vidéo. Eh bien, Sony, allié donc à... C'est quoi? C'est Endeavor, RTS? RTS, c'est une société qui a été créée par un groupe de représentation d'athlètes pour... acquérir l'Evo avec Sony. En gros, c'est vraiment ce qui nous intéresse, nous, c'est Sony a acheté ce tournoi. Et on parlait depuis un bon moment, depuis que Microsoft s'est mis à pousser le Game Pass et à racheter des studios pour avoir du contenu. On se disait, bon, est-ce que Sony va faire un petit peu plus que racheter Insomniac? Qu'est-ce qu'ils vont racheter? En fait, qui va être racheté dans cette grande consolidation de l'univers du jeu vidéo? On regardait évidemment du côté des studios. Et ben Sony nous a un peu surpris en faisant l'acquisition d'un tournoi de jeux vidéo. Peut-être ma première question sera à Dany, toi qui travailles dans l'industrie, tu as une connaissance approfondie des grands mouvements financiers des grandes sociétés tech. Est-ce que tu peux comprendre cette acquisition ou est-ce que ça reste un petit peu mystérieux quand même, Dany?
Disons que ouais, je pense que c'est peut-être pour, à mon avis, c'est pour Sony une opportunité de mettre le pied en fait dans l'e-sport et d'arriver à voir et contrôler un tournoi, enfin un des plus prestigieux tournois de jeux de combat. Maintenant, moi ce que j'aimais bien en fait, et à mon avis en fait, c'était surtout vis-à-vis de, tu vois, les plus gros jeux en e-sport. Ils sont pas forcément sur console, tu vois. Enfin, on parle, c'est League of Legends, c'est Dota, c'est Counter-Strike, etc. Donc, je pense que aussi, c'est peut-être un moyen de positionner la console comme un moyen aussi de participer à l'e-sport avec des événements visibles et super chouette. Je pense que maintenant, moi aussi, la question que je me pose derrière, c'est quid des produits qui ne seront pas sur PlayStation. Tout le monde parle de Super Smash Bros, mais il y en aura forcément aussi à l'avenir, peut-être des nouveaux qui seront exclusifs au PC ou à la Xbox ou j'en sais rien.
Y a Killer Instinct qui a souvent été dans l'Evo et qui est un jeu Microsoft. Tout le monde parle de Smash Bros, effectivement. Et il y a un point auquel j'avais pensé également pour cette question de l'entrée dans l'e-sport. Et c'est vrai que si tu es une grande société de jeux vidéo comme Sony et que tu dis on veut avoir une représentation dans le jeu vidéo compétitif, quand tu regardes les scènes de l'e-sport, tous les grands tournois sont des propriétés des éditeurs des jeux qui les produisent, des jeux qui sont concernés. Quand on regarde LoL, c'est Riot qui organise tout. Quand on regarde Dota 2, c'est Valve qui organise tout, etc., etc. Et l'Evo, c'est la seule organisation, enfin, c'est le seul événement e-sport qui n'est pas 100% associé à un éditeur. Donc, en fait, c'est le seul qu'on peut vraiment racheter facilement. Enfin, facilement, c'est le seul qu'on puisse racheter et donc avoir un pied dans l'e-sport sans être forcément confronté à l'idée, pour avoir un pied dans l'e-sport avec LoL, au-delà du fait que ce n'est pas un jeu qui est sur console, il faut racheter Riot. Et pour ça, bon courage, quoi. Donc, c'est un super bon moyen d'entrer dans ce domaine et de s'associer à ce domaine et d'avoir une opportunité marketing énorme et de se garder la communauté, parce que souvent, les jeux de combat sont sur PlayStation plus que sur les autres. Mais je trouve que de ce point de vue, c'est peut-être un angle auquel on ne pense pas toujours et qui est assez intéressant. Mais ouais, il y a forcément des opportunités marketing, il y a des questions sur les jeux qui ne sont pas sur PlayStation, au-delà du fait que peut-être qu'ils ne... Moi, je pense que Sony sera d'accord pour les avoir dans la tradition de l'Evo, mais après, c'est est-ce que Nintendo veut aller sur un tournoi, sur un événement où il va y avoir des pubs PlayStation partout, quoi, même pour leurs jeux. Qu'est-ce que t'en penses, Kassim? Est-ce que c'est simplement... Enfin, quelles opportunités ça ouvre à Sony?
Je pense que d'abord, Sony, dans leur stratégie globale, même si on prend plus large que PlayStation, en ce moment, ils ont une politique sur le contenu au sens large. Ils ont fait beaucoup d'investissements dans le milieu de l'animation japonaise, par exemple, récemment. Et je pense que l'Evo, ça peut s'inscrire aussi dans cette stratégie de racheter, d'avoir toujours plus de contenu pour des publics, des audiences plutôt jeunes. Et du coup, avoir une vraie place, comme vous l'avez dit, une vraie place du coup, dans la scène e-sport.
Je pense que ça peut avoir beaucoup d'intérêt. Quand tu parles de contenu, tu veux dire l'opportunité d'avoir des matchs diffusés, quoi, diffuser les tournois en tant que... Ouais, d'accord.
En tant que diffuseur, comme ils ont une plateforme d'animé, comme ils peuvent avoir de plus en plus de contenu jeux vidéo et hors jeux vidéo. Mmh. Donc je trouve ça intéressant aussi dans cette optique-là. Il y a d'autres éléments, c'est le fait que... Alors vous l'avez dit, je pense effectivement qu'ils veulent avoir une place aussi dans l'e-sport pour donner une clé de plus dans l'écosystème PlayStation. Ils avaient déjà le PlayStation Competition Center dans lequel il y a un peu de compétitif. Même si ça, évidemment, ça n'a pas l'impact de l'Evo. Et là, l'Evo, ça permet d'avoir une marque qui est déjà établie et que, j'ai envie de dire, tout le monde connaît. Alors, c'est un peu fort de dire ça, mais moi qui ne suis pas, par exemple, les jeux de combat autant que vous, même moi, je connais l'Evo, tu vois. Je connais le nom et je vois passer les annonces régulièrement chaque année qui concernent l'Evo. Je sais que, par exemple, Smash Bros. Fait beaucoup de débats, etc. Donc, voilà, je connaissais au moins la marque déjà, alors que je ne suis pas forcément intéressé par l'e-sport. Ça montre, je pense, que l'Evo a une certaine portée quand même, en dehors des éditeurs indépendants qui font chacun un peu leur scène e-sport à eux. Puis il y a ce côté multi-jeu, en plus, multi-éditeur de l'Evo qui est pas mal. Et puis, un autre élément, c'est l'importance de Sony dans le marché japonais. En fait, l'Evo... Tout à l'heure, vous avez dit, Dany a évoqué le fait que Counter-Strike, League of Legends et tout ça étaient beaucoup joués en e-sport. Tout ça, c'est des jeux occidentaux et PC. Mais les jeux consoles qui sont joués en e-sport, ou leur version PC ou leur version console, c'est les jeux de versus fighting et c'est beaucoup de jeux japonais ou d'origine japonaise. Et du coup...
On va dire les meilleurs sont japonais. Pour ne fâcher personne dans l'audience, on va dire simplement les meilleurs sont japonais, en effet, oui.
quand tu commences à aligner, je sais pas moi, Tekken, Smash Bros et les autres, t'as quand même beaucoup de productions
Fighter,
japonaises.
Ou... Non, c'est sûr. Il y a des jeux occidentaux comme Mortal Kombat ou Injustice ou Killer Instinct, on disait, mais bon, c'est... Je disais en plaisantant pour ne fâcher personne, je pense que tout le monde sera d'accord que l'essentiel est japonais. Ça, c'est pas vraiment un sujet de discussion.
Et donc forcément, à mon avis, c'est aussi un choix stratégique de la part de Sony de renforcer cette emprise sur le tournoi qui représente le mieux ces jeux-là. Donc je pense que c'est intéressant. Je pense pas que Sony fermera la porte à d'autres plateformes. Je pense effectivement que si Microsoft veut arriver avec Killer Instinct 2 sur PC et sur PC et Xbox, ils ne vont pas empêcher l'Evo de faire ça. Ça va rester relativement indépendant de Sony et de PlayStation. Mais l'inverse, comme tu disais, à mon avis, c'est plutôt la question des autres éditeurs. Je pense que Microsoft ne sera pas gêné de venir dans un tournoi qui ne lui appartient pas. Par contre, je pense que Nintendo avec Smash Bros, connaissant leur frilosité sur leur propriété, je ne suis pas sûr qu'ils aient effectivement envie. En tout cas, ils vont y réfléchir longuement avant d'accepter comme ça qu'on puisse jouer... dans un tournoi Sony, en fait, à leur jeu, quoi.
Parce que même pour les jeux multiplateformes comme Tekken, on est certain qu'ils vont jouer sur PlayStation et qu'il va y avoir des logos PlayStation partout et entre les deux rounds, un petit flash Best on PlayStation, machin.
Je pense qu'ils autoriseront quand même le jeu PC. Enfin, 90% des gens joueront sur PlayStation, je pense, où la PlayStation sera beaucoup mis en avant. Mais je pense quand même que s'il y a un joueur pro qui veut jouer sur PC, j'imagine qu'il pourra jouer sur PC, quoi.
Peut-être, à voir. C'est vrai que les généralement sur PC, la qualité et la responsiveness des jeux est préférée par les joueurs pro. Mais c'est sûr que pour un truc Smash Bros avec des coupures pub, venez jouer sur PlayStation. Même si en pratique, je suis pas sûr que ça poussera les joueurs Smash à aller sur PlayStation. Je crois que ça chatouillera Nintendo tellement qu'ils seront pas tellement pour, quoi.
Mais est-ce que ça tease leur jeu, une suite de leur jeu Battle Royale, enfin je sais plus comment il s'appelait, mince.
PlayStation All Stars.
Oui.
Le jeu de combat.
Est-ce que c'est pas le bon moment?
Ouais, le 2. Bah, puisque Smash, c'était une sorte de Smash en fait. Puisque Smash n'y sera plus, parce que Nintendo va se barrer, peut-être que ça serait le moment pour le remplacer en effet. Je me demande aussi s'il n'y a pas la possibilité, au-delà du fait d'utiliser l'Evo tel qu'il est aujourd'hui, d'utiliser la connaissance, le savoir-faire des équipes de l'Evo pour se développer la chose et peut-être avoir des tournois saisonniers 4 fois par mois, enfin trimestriels, et quelque chose de plus récurrent. J'imagine que l'intérêt de Sony, c'est de pérenniser un petit peu la chose et avec les moyens de Sony, peut-être que l'équipe de l'Evo pourra le faire. Ceci dit, l'une des caractéristiques de l'Evo, qui est hyper importante, c'est que contrairement aux autres tournois où c'est généralement des trucs où les équipes sont sélectionnées parfois par tournoi, parfois par invitation, etc., l'Evo, pour que les gens se rendent bien compte, c'est, j'imagine que c'est à Las Vegas généralement, et ils ont une immense salle, enfin des immenses salles, des centres de convention ou des halls dans des hôtels, et tout le monde peut venir participer et pendant les 3-4 jours que dure le truc, tout le monde fait passer passe ses étapes et tout le monde vient participer, n'importe qui peut s'inscrire. Et donc, quelqu'un qui n'a jamais été sur la scène des tournois, si cette personne joue vraiment très très bien et sort de nulle part, cette personne peut se qualifier et participer au tournoi et aller arriver en finale ou Dieu sait quoi. Et il y a des milliers...
C'est des open, en fait.
Oui, c'est ça, c'est des open, mais c'est très rare dans l'e-sport, mm-hmm. parce que c'est tellement compliqué à organiser. Et c'est des open dont tous les matchs se jouent pendant l'open lui-même. Donc, c'est hyper communautaire, l'Evo. Et alors, il y a eu des problèmes qui ont touché le monde de l'e-sport, enfin, des... jeux de combat l'année dernière, comme on le disait, des questions assez lamentables de sexisme, de harcèlement, etc. Et ils en parlent dans les annonces que j'ai trouvées assez bien. Et ils expriment à quel point ils essayent de corriger ces problèmes, enfin de casser avec cette image, ce qui est évidemment nécessaire. Mais au-delà de ça, la communauté des jeux de combat est quand même l'un des atouts, l'une des caractéristiques de l'Evo. Et je pensais que c'était important de le noter. Écoutez, on verra comment ça évolue. Moi, ça me paraît être un bon développement, cette histoire de rachat. Mais maintenant, on va passer aux autres grosses rumeurs. Enfin, là, c'est vraiment des rumeurs. C'est du côté de Microsoft, on a des rumeurs selon lesquelles ils seraient en train de discuter avec Discord pour faire un rachat dont le montant serait d'environ 10 milliards de dollars. Alors, si on pensait que 7 milliards, c'était beaucoup pour Bethesda, ben là, on est à 10, potentiellement pour racheter Discord, ce qui est un petit peu plus... Ben, là encore, c'est des rachats, on en attendait. Là, on est un petit peu... comment dire ? C'est plus... on se gratte la tête, quoi. Quelle est la raison pour laquelle Microsoft voudrait... Quel serait l'intérêt pour Microsoft ? Alors, j'ai quelques petites idées, mais je vais poser la question à Cassim, encore une fois, qui est un spécialiste Microsoft. Dis-nous tout. Pourquoi est-ce que Microsoft serait intéressé par un rachat de Discord ?
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il pourrait être intéressé. La première à laquelle je veux mentionner, à laquelle je pense pas beaucoup de monde pense, justement... c'est Azure. En fait, Microsoft, ils sont en ce moment vraiment une recherche d'entreprises aussi, de faire des acquisitions d'entreprises qui peuvent apporter une grosse infrastructure de clients, enfin beaucoup de clients pour Azure. Ils avaient beaucoup voulu racheter, enfin ils avaient tenté de racheter Pinterest il y a quelques mois pour pas mal de, je crois que la rumeur c'était 50 milliards de dollars, un truc comme ça, bref, une somme énorme. Là, c'est déjà plus léger, mais ramener Discord et ses centaines de millions d'utilisateurs sur Azure, ce serait une énorme extension pour Azure, pour leur cloud. Et ils sont en ce moment, ils sont vraiment dans une recherche d'acquisition comme ça. Donc j'ai l'impression que c'est pas tant une acquisition qui intéresserait Xbox qu'une acquisition qui intéresserait Microsoft au sens large. Mmh. Même si évidemment il va y avoir des synergies avec Xbox qui sont évidentes parce que Discord est né comme un service de jeux vidéo à la base pour réunir les joueurs entre eux, faire du chat, etc. Il y a d'autres synergies au-delà de Xbox au sein de Microsoft. Et puis Microsoft veut avoir un pied dans le marché grand public. Alors oui, ils ont Windows, ils ont Xbox, etc. Mais ça, tout ça, c'est des entre guillemets vieux produits et qui ont déjà leur communauté d'utilisateurs. Et ça fait longtemps que Microsoft aimerait avoir un truc branché, quoi, un truc frais, un truc
un
dans
truc
le
cool.
vent.
How do cool. you do, fellow et... kids?
Exactement. Et Microsoft, là, ils se sont foirés avec les smartphones, ils se sont foirés avec pas mal de trucs, et ils se sont foirés notamment avec les réseaux sociaux. Ils n'ont aucune place sur Internet. Bing, c'est pas non plus trop ça en dehors des États-Unis, et même aux États-Unis, c'est pas non plus la panacée. Et donc, ils veulent avoir une présence, voilà, quelque chose de plus moderne et une présence sur Internet avec une grosse communauté d'utilisateurs. Des utilisateurs qui vont pouvoir monétiser derrière, etc. Et ben ça, Discord peut leur apporter ça. C'est le service en ce moment qui est encore indépendant et qui peut se faire racheter entre guillemets facilement parce que c'est pas une société qui est cotée en bourse pour le moment. Et c'est une société, voilà, ça reste une start-up entre guillemets, même si elle a déjà beaucoup grossi. Mais du coup, voilà, je pense qu'il y a ces deux gros intérêts avant de même de parler de jeux vidéo, tu vois, ou de parler de joueurs.
Ça serait plus Microsoft pour toi que Xbox. Il y a une interview de Satya Nadella qui était intéressante où il parlait du futur de l'Internet, des autoroutes de l'information, et où il disait la création est au centre de ce qui va compter à l'avenir. Et quand on parle de création, on ne parle pas que des créateurs, mais on parle aussi de leur communauté. Et du coup, avoir un pied là-dedans aussi, c'est peut-être... Enfin, ça semble être très cohérent avec cette idée d'un rachat de Discord, puisque... Oui, vas-y.
Parce que Discord a énormément de potentiel en dehors. Parce qu'aujourd'hui, il est beaucoup associé aux joueurs et aux jeux vidéo en général, mais il a énormément de potentiel. Ça fait un an que Discord essaye de s'élargir à être vraiment la communauté, enfin le truc que tu vas créer pour créer une communauté sur Internet.
Et ils y arrivent très bien.
En dehors. Et ils y arrivent plutôt bien. Enfin, du coup, par exemple, tu as un Discord, même si on parle de jeux vidéo dessus, c'est pas forcément. Tu vois, il est plutôt centré autour de toi et de ton activité. Il y en a plein. Maintenant, tous les jeux. Alors, dans le jeu vidéo, tous les éditeurs quasiment, ou tous les jeux vidéo ont souvent un Discord officiel pour réunir. Là, ouais. Il y a eu récemment.
Mais même plus loin, tous les YouTubers, tous les Twitchers, voilà. Enfin, tout ce qui a trait à tout, hein, Discord, c'est l'endroit où, effectivement.
Dès que tu as une communauté, dès que tu as une communauté, tu crées ton serveur Discord. C'est le truc où les gens peuvent venir facilement depuis n'importe quel appareil et communiquer et chatter entre eux. Et du coup, ta communauté se renforce, interagit plutôt entre elles, plus entre elles, et du coup gagne en solidité en fait dans le long terme, je pense. Donc tout ça c'est très intéressant, et du coup ça ouvre des grosses perspectives, et je pense que les gens ont été impressionnés par le prix estimé là de 10 milliards, mais je trouve que en fait c'est presque pas très cher en fait compte tenu de la place de Discord, de son potentiel, du nombre d'utilisateurs et de la somme qui ont été mis pour des rachats d'autres réseaux sociaux avant, d'autres services sociaux avant Discord, quoi.
Mais du coup, c'est très bien tout ça, mais si on parle de jeux vidéo, est-ce que c'est juste pour mettre une grosse bannière Xbox sur les serveurs Discord, ou peut-être que Dany, t'as une idée de génie là-dessus, mais...
Déjà, j'ai tendance à être assez d'accord avec Kassim, et je pense que, à mon avis, la perspective de Microsoft là-dessus, c'est premièrement une acquisition d'un grand nombre de clients, et je vois aussi ça comme une opportunité pour l'intégration de Discord dans son business commercial, c'est-à-dire aussi, tu vois, les synergies qu'il peut y avoir avec Teams ou... et développer en fait cet aspect de leur business pour qu'ils deviennent une acquisition en termes de part de marché et vraiment arriver à dire voilà, on est les premiers au monde, que ce soit pour les services pour les particuliers ou pour les entreprises, par le biais de nos services justement Discord, Teams, etc.
Vous me déprimez un peu tous là, en fait ça n'a rien à voir avec le jeu vidéo, cette acquisition, c'est ça?
C'est petit en fait le business jeu vidéo pour Microsoft, donc oui, il y a de la valeur là-dessus, mais il faut pas oublier que le gros du business chez Microsoft vient pas du tout du jeu vidéo, et donc tu vois, 10 milliards de dollars pour un outil de communication pour les joueurs, je pense que ça va bien au-delà à mon avis.
Mais c'est là aussi où du coup, la rumeur est arrivée en deux temps. D'abord, on a compris que Discord avait eu des intentions, enfin des propositions de rachat. Puis on a appris que Microsoft, a priori, était l'un d'entre eux. Mais pour moi, c'est là où Microsoft... Enfin, tout le monde a immédiatement pensé à Microsoft quand il y a eu la première rumeur qui est arrivée, parce que Microsoft a l'habitude de racheter, là, récemment, des trucs dans le jeu vidéo. Mais aussi parce que, justement, ça a du sens pour toutes les activités de Microsoft, en fait, que ce soit par rapport à Teams, comme vient de le dire Dany, que ce soit dans le jeu vidéo pour renforcer Xbox. C'est pour ça que ça a tellement de sens à plein d'aspects de Microsoft que, du coup, c'est un rachat... Pour moi, si la rachat ne se fait pas, c'est pas que Microsoft ne le voulait pas, c'est que Discord n'a pas voulu se faire racheter et a préféré rester indépendant, par exemple. Le frein viendrait plutôt de Discord, quoi, clairement.
Il y a peut-être un petit truc qui pourrait se connecter, c'est le fait d'avoir Discord Nitro inclus dans le Game Pass, peut-être. Un truc comme ça. Et puis peut-être que ça peut aussi être un outil pour faire connaître... une intégration de Discord au Xbox Live, par exemple, au Xbox Network. Maintenant, il faut dire Xbox Network, attention. Mais intégration de Discord dans l'infrastructure Xbox, par exemple, ça pourrait être cool, même sur la console, de manière à pouvoir importer ses... Alors, au niveau de l'interface, c'est peut-être compliqué, mais de manière à pouvoir importer ses communautés, les avoir directement en chat, sans avoir besoin de créer des trucs de chat supplémentaires, ça pourrait être intéressant. Mais oui, c'est peut-être pas la raison principale d'un achat, quoi.
Bah moi, j'étais presque surpris quand il y a déjà eu des offres partenariat entre Discord Nitro et le Game Pass, et j'ai toujours été surpris du fait que Microsoft, enfin, je comprends pourquoi ils font un peu chasse gardée par rapport à Xbox Live, mais j'ai toujours été surpris qu'il n'y ait pas d'application Discord sur Xbox. Enfin, des trois fabricants, je trouve que c'est Microsoft qui aurait été le plus à même, à mon avis, de proposer cette connexion-là avec Discord, justement, parce que c'est le fabricant parmi les trois qui veut une approche multiplateforme, multi-écosystème, avec Windows, Xbox, le smartphone, etc. Discord, ça a beaucoup de sens.
Ça, il pourrait faire une interface simplifiée qui soit essentiellement le chat ou peut-être les DM ou je sais pas, un truc facile sur Xbox qui faciliterait les choses. Ouais. Puisqu'on parle du Game Pass, passons à cette rumeur qui est peut-être un petit peu plus rumeureuse encore. c'est la possible intégration d'une version d'Ubisoft Plus dans le Game Pass. Alors, on en entend parler depuis un moment, depuis que EA Plus, EA Pro, EA Play a été intégré dans le Game Pass. Quand on en discutait sur Twitter, Kassim, tu me rappelais judicieusement que EA Play, non seulement c'est pas EA Pro, donc c'est pas tous les jeux qui sont dans le catalogue EA, contrairement à Ubisoft Plus qui inclut tous les jeux, mais en plus, il n'est pas dit que EA Play restera jusqu'à la fin des temps. Moi, j'imagine que c'est quand même un deal de plusieurs années, minimum de 3 ans et j'imagine plus. Mais Ubisoft, ça semble plus compliqué. Est-ce que tu y crois, Kassim, à une intégration d'Ubisoft ? Alors, pour rappeler, hein, pour ceux qui ne savent pas, Ubisoft Plus, c'est l'abonnement à Ubisoft qui donne accès à tous les jeux Ubisoft, y compris les tout derniers sortis. Et donc, intégrer ça au Game Pass, ça serait un beaucoup plus gros deal que l'intégration de EA Play, qui donne accès qu'au back catalogue, aux jeux sortis depuis au moins quelques mois chez EA. Donc, est-ce que tu y crois à cette rumeur ?
Ah, c'est vrai. Tu me jettes comme ça.
Ouais, sans pitié.
Est-ce que j'y crois ? Je crois que Microsoft, je crois fermement que Microsoft a envie d'avoir des jeux, plus de jeux Ubisoft dans le Xbox Game Pass et qu'ils aimeraient faire un partenariat avec Ubisoft. De là à dire, je crois que l'abonnement Ubisoft Plus qui coûte individuellement 15€ par mois sera intégré comme ça gratuitement dans le Game Pass qui coûte lui 13€ par mois. voilà.
Non, ouais, mais par contre, ça semble peu probable.
Non, mais la rumeur, elle est intéressante quand même à analyser parce que, oui, voilà, il y a pas mal de choses qui ont du sens par rapport à la stratégie de Xbox et du Game Pass. Clairement, Microsoft veut avoir des catalogues plus forts d'éditeurs tiers. Ils ne veulent pas que leurs jeux à eux dans le Game Pass. Ils ont déjà intégré EA Play. Alors moi, ce que je disais sur Twitter, c'est aussi que je n'étais pas forcément très favorable au fait que EA Play soit intégré gratuitement puisque, justement, j'aurais
préféré... Parce que tu n'aimes pas avoir les trucs gratuits, toi.
Exactement, j'aime bien les payer quand même. Et non, mais j'aurais bien aimé, j'aurais trouvé ça plus logique et plus future-proof que EA Play soit une option, une sorte de bouquet que tu achètes en option. Et justement, ça aurait eu du sens par rapport à l'arrivée derrière d'Ubisoft, qui aurait été une sorte de second bouquet. Parce que, tu ne l'as pas rappelé, mais Ubisoft Plus, il a déjà aussi été annoncé pour Amazon Luna et pour Google Stadia. Alors bon, Google Stadia, on verra si ça se fait ou pas au final. Mais pour Amazon Luna, en tout cas, c'est toujours prévu.
Mais et attends, donc, pour Stadia, c'est pas déjà le cas ? Moi, je pensais que si tu étais abonné Ubisoft Plus, tu avais accès aux jeux Ubisoft par Stadia gratuitement. Enfin, gratuitement, de par ton abonnement.
C'est pas déjà ma connaissance.
Le cas. D'accord.
Non, pas à ma connaissance. Si t'es abonné, ça te donne juste le droit au service sur PC à travers Ubisoft Connect, qui est leur launcher à eux. Mais non, pas à ma connaissance. Mais du coup, justement, on n'a pas encore de concrétisation d'une arrivée d'Ubisoft Plus dans un service d'un fabricant, d'une plateforme, quoi. Donc, on verra. Mais du coup, on voit qu'Ubisoft, en tout cas, ils sont prêts à signer avec des fabricants de plateformes, que ce soit Google ou Amazon. Donc, on verra si Microsoft peut signer avec eux. Est-ce que, par exemple, ça pourrait pas prendre la forme d'un Ubisoft moins, comme tu dis, ou un Ubisoft
comme je
light
sur Twitter, Ubisoft moins avec une partie des jeux qui serait incluse, ouais, comme pour EA.
Bah les vieux, quoi, en gros. Mmh. Le back catalogue, comme EA Play le fait actuellement, là, déjà, ça aurait beaucoup plus de sens. Mmh. Parce qu'en plus, Ubisoft Plus, tu l'as pas dit, mais intègre aussi, en plus des jeux récents, ils intègrent aussi tous les DLC, ce que le Game Pass n'intègre pas d'habitude. Mmh. C'est-à-dire que tu as la version, entre guillemets, ultimate de chaque jeu Ubisoft dans ton abonnement. Donc là aussi, ouais, on aurait du mal à comprendre l'intérêt pour Ubisoft de signer comme ça. Ils pourraient même pas se faire de l'argent derrière par les microtransactions, ouais, dans leur jeu, quoi.
Je précise sur la question Ubisoft Plus sur Stadia, on voit que la communication de Stadia est tellement claire comme d'habitude. C'est bien le cas, Ubisoft Plus on Stadia. If you have a Ubisoft Plus subscription with beta access to cloud gaming, you can link your Ubisoft account with Stadia to get access to select Ubisoft Plus games on Stadia. Donc, je sais pas si c'est très limité l'accès bêta au cloud gaming dans Ubisoft Plus, mais le système est déjà en place. Donc,
Ok, oui, c'est que aux États-Unis effectivement. En fait, je viens de voir. Mais oui, c'est en bêta. Mais oui, c'était, de toute façon, c'était annoncé. Ça avait été annoncé à l'E3 et ça va arriver quoi qu'il arrive, et ça va arriver sur Amazon Luna aussi. Donc, je trouve ça intéressant ce principe d'avoir un abonnement de base, comme c'est le cas pour Amazon Luna, et d'avoir ensuite des bouquets pour chaque éditeur qui peut t'intéresser. Ouais. Plutôt qu'essayer de tout intégrer un peu.
Ouais. Du coup, Dany, parmi ces nombreuses solutions qu'on proposerait pour intégrer Ubisoft au Game Pass, l'augmentation du prix du Game Pass, est-ce qu'elle va arriver à un moment peut-être ? Est-ce qu'un Ubisoft moins, avec moins de jeux que ce qu'on a sur Ubisoft Plus, ça serait plus crédible ? Est-ce qu'une segmentation du Game Pass, ça serait possible ? Moi, ça me paraît trop compliqué pour Microsoft, qui a déjà beaucoup d'offres différentes. Est-ce que tu vois un scénario plus probable, ou est-ce que c'est carrément non, Ubisoft sur Game Pass, vous rêvez ?
Bah, à mon avis, je pense que Microsoft essaye de se positionner comme le... allez, on va dire le Netflix d'il y a 5 ans, où il n'y avait aucune concurrence et c'était la plateforme incontournable si tu voulais du contenu du contenu dématérialisé en stream. Et bon, maintenant c'est plus forcément le cas, mais je pense que c'est peut-être un moyen aussi pour Microsoft donc de se positionner et d'élargir son portefeuille de jeux disponibles et pouvoir dire regardez, il y a tout sur le Game Pass. Et ensuite, je pense qu'effectivement ça va venir soit en parallèle cet élargissement avec des augmentations de prix de l'abonnement, ou alors peut-être effectivement des types de bouquets, un peu comme il y a sur Netflix, tu vois, t'as le compte t'as l'abonnement avec deux comptes, trois comptes en full HD ou quatre comptes en ultra HD, machin, etc.
Moi, je te demande de te mouiller. Moi, je te demande de te mouiller. Lequel serait le plus crédible ? C'est ça la question.
Alors, ouais, il faut voir s'ils y arrivent, mais je pense que ils vont essayer de toute façon d'ajouter un maximum de gros éditeurs, donc EA, Ubisoft, etc. Je pense qu'ils vont passer sur la formule soit bouquet, soit l'abonnement moins, plus et ultra avec tout. Et ouais, ce sera un super, une super opportunité pour tous les joueurs aussi, parce que ouais, j'y crois. Et je pense que le futur pour Xbox, à mon avis, c'est plus en tant que plateforme de contenu, plus qu'en tant que développeur de hardware.
C'est sûr que si tu penses au Xbox comme tu penses au Game Pass et à l'offre d'un catalogue, l'idée d'intégrer au moins une partie des jeux Ubisoft, c'est tout de suite une plus grande priorité. Maintenant, comment gérer ça au niveau du branding, ça serait compliqué parce que Ubisoft Plus existe déjà. Est-ce que tu dis une sélection de jeux Ubisoft comme ils le font sur Stadia pour dire ceux qui sont sur Stadia ? Est-ce que tu dis tu crées une nouvelle marque ou un nouveau branding ? Je sais pas, mais bon.
Je sais pas, mais tu vois, c'est facile de dire voilà, bah, les jeux qui sont sortis avant,
les jeux qui ont un an,
sont inclus dans le Game Pass normal, et pour les jeux plus, écoutez, prenez le Game Pass Ultra pour seulement 99€ par semaine.
Peut-être que ça pourrait être un deal avec Microsoft qui amènerait Ubisoft Plus sur la Xbox. Et d'un autre côté, Ubisoft file quelques jeux à Microsoft, les jeux qui ont plus de 2 ans à Microsoft, et les inclut dans le Game Pass, peut-être. Bon, voir.
Moi, j'aurais tendance à voir comme ça, et je pense que c'est aussi un bon moyen pour augmenter la portée des jeux Ubisoft pas uniquement sur les consoles, mais aussi sur PC, et arriver à dire, regardez, il y a une offre crédible sur PC, le marché du PC est en train de grandir, et à terme, bah, de toute façon, une Xbox, c'est devenu un PC, hein. ni plus ni moins.
Et clairement, la façon dont Microsoft va vendre le truc à Ubisoft, c'est aussi l'idée derrière que les jeux Ubisoft qui seront dans le Game Pass seront probablement dans le disponible en cloud, qui arrive sur iOS et PC là, et qui est déjà disponible sur Android. Et donc, c'est tout un nouveau public pour les jeux Ubisoft de pouvoir voilà, jouer facilement depuis un peu n'importe quel appareil aux jeux Ubisoft en dehors des consoles et des PC. Quoi. Donc,
mais ils sont déjà sur Stadia, ils n'en ont pas besoin.
Oui, voilà, mais j'allais y venir. Ayant vu le succès limité pour l'instant de Stadia et Luna, peut-être que justement pour Ubisoft, ils voient ça comme une sorte de nouvelle entrée dans le marché du cloud gaming. En tout cas, ils seront partout, quoi, du coup.
Pour Ubisoft, c'est, disons que Ubisoft, ils ont l'habitude, ils ne sont pas farouches. Hein. Quand il y a une opportunité de mettre leur jeu quelque part, ils y vont, que ce soit la Wii U. Enfin, tu vois, quand tu vois qu'ils avaient un titre de lancement de la Wii U, tu te rends compte qu'il n'y a rien qui les arrête.
Ubisoft, ils sont toujours partenaires des nouvelles plateformes. C'est sûr. En particulier quand tu leur offres 10, 20 ou 50 millions de dollars pour un portage de jeu. Bon, ça, c'est pour d'autres sujets, mais...
Oui, on est d'accord. Bon, pour finir sur le Game Pass, les versions de Nier et de Evil Within qui sont sur le Game Pass sont meilleures que les versions de Steam. Je voulais juste le mentionner. Il y a aussi le fait que l'auto HDR arrive sur les jeux PC Microsoft et Game Pass. Bon, ça, c'est moins important parce que le HDR sur PC, c'est pas encore ça, on va dire. Mais c'est quand même à noter. Surtout cette histoire de jeu mieux porté sur l'interface Game Pass, sur l'infrastructure Game Pass que sur Steam, c'est intéressant, je trouve. Ils y mettent plus de soin, c'est pas mal. Bon, écoutez, on va faire une toute petite pause pour parler de quoi ? De Patreon. Est-ce que vous savez ce qu'est Patreon ? Si vous me dites oui, eh bien, je suis fier de vous. Si vous me dites non, pas d'inquiétude, je vais vous expliquer tout de suite. C'est le moyen de soutenir l'émission, de soutenir le rendez-vous jeu. Patreon, c'est un système d'abonnement complètement optionnel, c'est-à-dire que vous pouvez bien sûr écouter le rendez-vous jeu gratuitement, que ce soit sur Twitch, en podcast, etc. Mais si vous soutenez sur Patreon, eh ben vous avez deux choses. D'une part, le plaisir immense de soutenir un contenu qui vous paraît qualitatif et de soutenir un créateur directement, de me permettre, moi, de payer mon loyer et mes pâtes. C'est hyper apprécié. Et en plus de ça, vous avez des bonus comme des épisodes qui sont entièrement sans pub. Il y a même cette petite partie au milieu, cette promo de Patreon au milieu qui est supprimée. Vous avez aussi des time codes pour passer d'un sujet à l'autre s'il y a des sujets qui ne vous intéressent pas. Vous avez l'accès aux after shows qu'on enregistre après les émissions, qui sont dans le podcast, c'est des petits moments communautaires. Vous avez plein de petites choses super cool. Si vous soutenez l'émission sur Patreon, c'est sur patreon.com/rdvjeu. Et disons que si vous appréciez, si vous avez commencé, si c'est le premier ou deuxième épisode que vous écoutez, bon, évidemment, je pense que vous n'avez pas assez de la confiance dans l'émission pour la soutenir, c'est normal. Mais si ça fait quelques mois que vous écoutez l'émission, j'aimerais vous encourager à vous poser la question, à vous dire écoute, c'est une émission qui me plaît, ça me fait plaisir quand elle arrive dans mon app de podcast, je sais que je vais passer un bon moment, que ça va faciliter mes transports, que je vais moins m'emmerder en faisant le ménage. Et bien peut-être que vous pourriez soutenir l'émission financièrement et l'aider à se faire. C'est sur patreon.com/rdvjeu. Vous faites simplement le choix de la somme que vous allez attribuer à chaque épisode et puis vous êtes débité en fin de mois, tout simplement. C'est un système hyper facile, éprouvé. Ça fait des années qu'il existe et ça fait des années que je vis grâce à ce financement. Donc, vous pouvez y aller sans aucun souci. C'est disponible sur téléphone mobile. Vous pouvez le faire tout de suite en écoutant même. Ou quand vous rentrez chez vous et que vous mettez les clés dans le bol et que ça fait cling et vous dites « Ah oui, faut que je check Patreon ». C'est patreon.com/rdvjeu et le lien est dans le note de l'émission. Un grand merci à tous ceux et toutes celles qui soutiennent déjà l'émission.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee, start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Bon, alors, on va faire une petite pause sur les news et parler des jeux auxquels on joue en ce moment. Je vois que quelqu'un a ajouté dans la liste Crash Bandicoot 4 et Prey. Je me demande si c'est pas... Alors, je me demande si c'est pas, si c'est pas Danny. Crash Bandicoot 4, je sais pas pourquoi. La nostalgie des vieux trucs, ça me fait penser à Danny.
Est-ce que je Mais c'est pas si vieux que ça, Crash Bandicoot. Donc non, d'une part, c'est pas moi. Merde. Même si j'ai joué quand il est sorti sur PlayStation. Et Prey, mais c'est super vieux, Prey.
Oui, mais l'arrivée dans le Game Pass, du coup, merde ! Tous les indices étaient là, c'était Kassim. Effectivement, c'était Kassim plus que Prey.
Bon, très très bon goût par contre, hein, mais c'est juste dommage d'attendre le Game Pass pour la sortie de, pour jouer à ces deux excellents jeux, à mon avis.
Bah, Crash Bandicoot, il n'est pas dans le Game Pass, mais Prey, oui. Donc c'est toi, Kassim, qui joue à ces deux jeux-là ?
Oui, exactement. Oui, j'ai enfin reçu ma Xbox Series X et j'ai acheté Crash Bandicoot 4 parce qu'en plus, il vient de sortir en version next-gen. Il était sorti en septembre à la base sur les anciennes consoles et là, il vient de sortir en version next-gen pour la PS5 et les nouvelles Xbox. Et oui, je voulais surtout parler de Crash Bandicoot 4 que j'ai adoré. Moi, je suis fan surtout de Crash Bandicoot 3 à la base auquel j'ai joué quand j'étais petit sur PlayStation 1, l'épisode de Warped. Le reste de la série, c'est pas forcément d'une incroyable qualité pour moi, mais j'adore le troisième épisode. Et là, j'étais très content de voir les développeurs du remake, en fait, Toys for Bob, qui ont donc fait le remake de la trilogie, se lancer dans un quatrième épisode, donc complètement un nouveau épisode. Et il est vraiment réussi. On a vraiment l'impression d'avoir une suite canonique, enfin de si bonne qualité que le troisième épisode, en tout cas à l'époque, ou d'une manière générale la série de base, qui était développée quand même par Naughty Dogs, rappelons-le.
Oui. C'est vrai.
Avant, c'était un autre univers. Avant, on est loin de The Last of Us. Mais du coup, non, Crash Bandicoot 4, ouais, vraiment, c'est très réussi. D'abord, la direction artistique et les graphismes sont géniaux. Et c'est très important, en fait, dans ce jeu, parce que ça permet aux développeurs de créer un univers à la Looney Tunes vraiment cool. Tout le scénario du jeu, l'univers tourne un peu autour de cet humour qu'on a très enfantin de les gentils contre les méchants et ils se moquent du fait qu'ils ont déjà vaincu le méchant plusieurs fois. Il y a d'ailleurs une petite référence au fait qu'il y a eu des jeux Activision entre-temps qui étaient un peu pourris où ils disent voilà combien de fois on a vaincu le méchant. Ah, on l'a vécu que trois fois, il me semblait qu'on avait vaincu plus que ça puisque ce quatrième épisode essaye un peu d'effacer est arrivé entre-temps.
D'accord.
Donc on a des petits clins d'œil aussi à la série. Et puis, c'est un jeu qui est vraiment très généreux. Il y a beaucoup de niveaux à jouer, beaucoup de choses à faire et beaucoup de rejouabilité aussi, puisque chaque niveau a une version un peu twistée, avec une direction artistique complètement différente. Par exemple, il y a une version où on est complètement plongé dans le noir et c'est quand on tourbillonne qu'on fait de la lumière et qu'on voit devant nous, par exemple. Ou d'autres qui changent juste le style esthétique du niveau et qui, par exemple, font un effet de l'estampe japonaise. Donc on s'amuse voilà, à découvrir des versions alternatives des niveaux qu'on a fait. Et puis le jeu permet pour la première fois de jouer avec d'autres personnages. Alors il y a Coco en alternative à Crash pour avoir un personnage féminin pour les niveaux classiques, on va dire. Mais on peut aussi jouer vraiment avec d'autres personnages qui changent complètement le gameplay. sur certains niveaux. C'est des niveaux spécifiques pour eux, qui sont conçus spécifiquement, spécialement pour eux. Et ça aussi, c'est très réussi. Alors, on n'a pas toute la diversité qu'avait Warped à l'époque, où on avait des phases de shoot'em up et ils étaient vraiment partis dans plein de délires. Mais on a quand même, à l'intérieur du jeu de plateforme, cette grosse diversité. Et vraiment, c'est un jeu que je recommande chaudement. Enfin, on a passé énormément de bons moments et je trouve le jeu vraiment drôle, vraiment, enfin, rappelant tous les Looney Tunes, les Bibip el Coyote un peu dans l'humour et en même temps, voilà, pas mal d'univers différents que tu as traversé avec vraiment une très bonne direction artistique. Donc voilà, c'est vraiment très cool.
Je suis curieux
Surtout, c'est un. Pour moi, c'est surtout aussi une très bonne alternative. Enfin, finalement, tu veux jouer à un jeu de plateforme aujourd'hui, tu vas probablement t'orienter vers Nintendo. Mais disons que si t'as pas forcément une Switch, c'est peut-être un des meilleurs jeux de plateforme de ces. Il doit y en avoir un par an en ce moment, au maximum. Donc, de ces 3-4 dernières années, à part les remasters de Ratchet & Clank et Jak & Daxter, je crois. Donc c'est franchement, ça fait plaisir de voir que le genre n'est pas complètement mort.
Mais justement, en parlant du genre, c'est sûr que c'est un truc qui a un certain pédigré. Est-ce qu'il est aussi difficile que, dans mon souvenir, les jeux de l'époque, ou est-ce qu'ils ont quand même un petit peu adapté le gameplay à un truc plus moderne ?
Alors oui et non, moi je trouve qu'il est difficile, et notamment il part du principe que tu as fait l'épisode 3 juste par exemple avant, enfin que tu connais un peu les codes de Crash Bandicoot, c'est pas ton premier épisode, donc en cela je trouve qu'il est un peu abrupt, même s'il y a toutes les explications au début du jeu, et que le premier niveau, rétrospectivement le premier niveau est quand même très simple par rapport au dernier, quand tu as fini le jeu. Et que tu retournes et tu te dis, ah, mais comment je pouvais galérer là-dessus, tu vois, t'as ce niveau de progression un peu, où tu te demandes un peu ce que tu dis.
C'est un peu le Dark Souls des jeux de plateforme, en fait, c'est ça que t'essayes de nous dire.
Carrément.
Faut voir ça différemment, je pense aussi. C'est une suite qui s'inscrit dans la continuité du jeu. Et finalement, tu joues à Super Mario World sur Super NES il y a 30 ans, ou 20 ans, je sais plus, il était, tu y rejoues maintenant sans avoir ton expérience et ton vécu sur ce jeu. Ouais, il est chaud, hein.
Oui, c'est sûr.
Il est difficile, hein. Donc, ouais, je verrais pas ça comme un Dark Souls où tu.
Non,
mais c'était une plaisanterie.
Je ne connais pas. C'est de la dextérité, de la technique.
Ouais.
Et tu me poses la question de la modernité. Il y a quand même deux éléments sur lesquels que je veux mentionner. Bon, d'abord, il y a un système de vie infinie qui s'inscrit bien dans les jeux contemporains et qui permet au moins de progresser. Il y a quand même des checkpoints super régulièrement et tout. Donc, si tu veux, t'embêtes pas à faire le jeu à 100%, il est relativement simple à finir, au moins à compléter. Et l'autre point que je trouve est bienvenu, c'est le fait qu'il y a une ombre. Enfin, c'est activable dans les options. Enfin, c'est désactivable plutôt dans les options si on n'aime pas. Mais il y a une ombre sous Crash quand il saute pour voir où il est dans l'espace si on a du mal à se repérer dans l'espace en 3D. Et donc ça, c'est... Non, mais ça, je trouve ça très, très bien.
D'accord.
Pour avoir la maîtrise du personnage.
Un plaidoyer en faveur de Crash que j'attendais pas forcément. C'est surtout qu'il est sorti il y a un moment. Alors, maintenant, on a l'option. Soit on le prend maintenant, soit on attend une promo, une intégration au Game Pass ou au PlayStation Plus ou un truc comme ça. C'est bien possible. Mais d'accord, c'est vrai que, comme le disait Dany, les options pour les jeux de plateforme, il n'y en a pas des tonnes. Donc, si ça, c'est l'option du moment, c'est bon à noter, effectivement.
Bon, et rapidement, oui. Tu veux que je parle de prêt rapidement?
Bon, vas-y, tant qu'à parler des vieux jeux. Disons que prêt, au moins, il est inclus dans le Game Pass, donc il y a beaucoup de gens qui y ont accès. Donc, vas-y.
Non, mais c'est juste pour dire, justement, moi, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer à l'époque, parce que... Mais 2021 a cette qualité-là, que c'est l'année parfaite pour le backlog et pour les jeux, justement, que t'as envie, enfin, t'as enfin le temps de pouvoir faire, et à côté desquels t'es passé, et Prey, ça en est un. Donc, c'est développé par Arkane, et... Alors, moi, j'en suis qu'au début encore, justement, parce que Crash m'a pris pas mal de temps, mais j'adore... l'ambiance est très proche de Half-Life ou de Bioshock... c'est vraiment, alors c'est censé être, la perspective est un FPS, mais en réalité c'est vraiment un jeu d'aventure et d'exploration, un immersive sim dans lequel un des points forts va être de pouvoir résoudre les situations de plusieurs façons différentes. Est-ce que tu vas vouloir hacker la porte pour la passer, ou plutôt essayer de trouver la carte d'accès, ou encore passer par le conduit d'aération qui était un petit peu caché derrière un décor. Voilà, à chaque fois, tu as plusieurs cartes à jouer pour progresser dans l'histoire et pour explorer à ta guise cette sorte de station spatiale un peu abandonnée. Et voilà, j'en suis qu'au début, je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais du coup, je suis bien content de découvrir le jeu maintenant. Et pour l'instant, je m'amuse bien, donc on verra bien. Mais d'accord. Je suis content du coup aussi pour... Et j'ai l'impression que le jeu, effectivement, tu disais qu'il était arrivé dans le Game Pass, et je pense que du coup, je ne suis pas le seul à m'être lancé dans le jeu. Et du coup, je suis content pour Arkane, qui a un peu subi des mauvais lancements successifs de jeux, justement parce que c'est des jeux solo un peu particuliers. Et du coup, je suis content peut-être qu'il trouve un nouveau public. Enfin, j'espère que du coup, ça va être un vrai succès dans le Game Pass. Je suis content, voilà, s'il trouve un public, quoi.
J'ai l'impression que ce genre de jeu d'Arkane, et que, enfin, les jeux d'Arkane en général, à part peut-être Dishonored 1, c'est tous des jeux qui bénéficieraient à être dans le Game Pass et à donner à de nombreux joueurs l'opportunité de les tester. Donc, bon, là, on est pile dans ce contexte. Moi, je vais passer rapidement sur... je voulais jouer à Destiny pour tester la nouvelle Strike, mais hélas, j'ai pas eu le temps. Par contre, j'ai relancé un jeu que tout le monde adore et que je sais, vous attendez qu'une chose, c'est que j'en parle encore et que vous aussi, vous êtes en train d'y jouer, donc c'est à peine nécessaire d'en dire quelques mots. C'est évidemment Avengers, l'énorme succès de cet automne, auquel j'ai rejoué un petit peu pour finir le DLC précédent et finir le DLC Hawkeye qui vient de sortir il y a quelques jours. Et je peux vous confirmer que ma conclusion est toujours identique à ce qu'elle était à l'époque, c'est-à-dire que c'est quand même un bien gros bordel. Comment dire ? Si vous vous en souvenez, à l'époque, je disais que le gameplay était vraiment bon et que tout le reste était dramatique. Et je suis encore dans cette optique, mais c'est encore plus dommage de voir à quel point c'est un gâchis, parce que le gameplay qui est super sympa est tellement pas mis en valeur, que c'est même plus que c'est pas mis en valeur, c'est que ça devient... Bref, on va pas refaire des heures sur Avengers. C'est toujours la même chose. J'ai fait les segments histoire qui sont gratuits, hein, ceci dit, donc vous pouvez les faire sans problème avec Kate Bishop et Hawkeye et Clint Barton. Ils ont annoncé qu'il y a Black Panther qui arrive, etc. Mais c'est tellement frustrant que même si c'est gratuit, je ne peux pas le recommander. Tellement c'est frustrant dans sa conception, dans son design. Et donc, je garde espoir qu'il le refasse de fond en comble un jour. Et il y a tellement peu d'updates que je me dis qu'ils doivent être en train de travailler à quelque chose de plus profond. Mais on a eu tellement de mauvaises surprises avec notamment Anthem qui a été annulé après 2 ans de rien que je commence à perdre espoir. Mais c'est dommage, il y a un bon fond sur Avengers. Bref, voilà, c'était pour parler d'Avengers. Je sens que ça provoque
la seule image qui m'est venue en tête quand tu as commencé à en parler, c'est ce gif très connu de Arrested Development où il y a une personne qui se lève et qui dit There are dozens of us, tu vois, qui...
Ah, dizaines. On est des dizaines, genre les fans. Ouais, oui. Complètement.
Les trois au fond qui se lèvent.
Non, mais le pire,
c'est que... Tobias Funke de Arrested Development, ça, qui est excellent exactement. Comme personnage.
Le pire, c'est que si moi ça ne marche pas avec moi ce jeu, c'est que vraiment ça ne marche avec personne, quoi.
C'est sûr que quand tu vois le succès de Marvel au cinéma, quand même, tu te dis qu'il y a un potentiel incroyable pour ce jeu et enfin, il y a quelque chose à faire avec l'univers Marvel en jeu vidéo. Et que c'est quand même très triste ce qui arrive à ce jeu. Et,
c'est pour ça que je me dis qu'il n'est pas impossible qu'il continue à travailler dessus, en fait. Parce que...
Je ne vois même pas comment...
Ah ben, faut tout faire.
Déjà, faut l'annoncer que tu retravailles dessus, parce que sinon, les gens n'ont aucune perspective d'avenir sur ton jeu et trouvent qu'il est mort, quoi.
Non, mais il est déjà mort, voilà. Ça, c'est fini. Ils peuvent l'annoncer dans 3 ou 4 mois.
Il faut qu'il fasse un Rebirth, un...
Ouais, c'est ça, exactement.
Un Avengers Rebirth.
Un Realm Reborn,
c'est ça. Non, mais ils peuvent. Et le futur de Marvel avec le cinéma et les séries, je pense, garde un certain potentiel. Donc, le jeu, ils ont une raison de retravailler le jeu. Mais oui, la tâche est tellement énorme. Garder le cœur du gameplay et refondre... on s'en fout. Ce n'est pas l'émission sur Avengers. Vraiment, ce n'est pas le sujet le plus important. Mais on verra. Le Square Enix Presents qui a eu lieu il y a quelques jours, il y avait quelques petites infos intéressantes. On a eu la présentation du nouveau Life is Strange qui s'appelle True Colors, qui est contrairement aux épisodes précédents, ne sera pas épisodique, justement, ça sera un jeu vendu et basta, il n'y aura pas plusieurs épisodes. On va revenir sur les différents sujets si vous voulez. Il y a un remaster de Life is Strange, le premier. Des images de Forspoken, le jeu qui avait été présenté en tant que Project Atia. Il a un nom, il s'appelle Forspoken, c'est un nom un petit peu bizarre, mais il a l'air très très beau, on va y revenir encore une fois. Outriders, un petit peu d'infos, mais ça on s'en fout, parce qu'il arrive bientôt et on en a déjà parlé. Balan Wonderworld, qui me parle pas du tout, c'est Yuji Naka et également Naoto Oshima, mais on se souvient surtout de Yuji Naka pour Nights into Dreams, et puis le trailer de Black Panther pour Avengers, dont je suis sûr que vous allez... Oui, entre parenthèses, il y a la version PS5 et Xbox Series SX qui est disponible, ce qui ne change pas la nature du jeu, et la confirmation de la trilogie remaster, enfin... C'est même pas remaster, c'est même une trilogie pas, ouais. Collection, on va dire, de Tomb Raider. Et puis Just Cause Mobile et un jeu réalité augmentée de Space Invaders, sur lequel on n'a pas beaucoup de détails. Mais revenons au début, donc qu'est-ce qui vous parle le plus de tout ça ? Dany, il y a des trucs qui te séduisent peut-être ? J'imagine que c'est les gros blockbusters comme Forspoken ?
Faut voir. Non, je suis pas intrigué par Forspoken. Je le verrai bien, mais il y a rien où je me dis, où je suis en train de me dire, oh c'est génial, c'est day one, il faut que je l'installe direct dès qu'il sort, je vais mourir si je l'ai pas.
Disons que Forspoken,
plein de petits trucs sympas dans les annonces, mais rien de majeur pour moi. Ouais. Donc oui, Forspoken a l'air bien, mais bon, qu'est-ce que ça va donner, ça je sais pas.
Ouais, on a vraiment vu, c'est vraiment un mini teaser pour Forspoken. Hein.
C'est ça, il y a rien.
On a rien de très précis. C'est en gros des images des environnements avec le déplacement hyper rapide dans ces environnements et c'est à peu près tout. Et puis on voit qu'il y a un petit peu de magie. C'est un jeu en troisième personne, on va dire, mais on sait pas grand-chose de plus.
C'est les développeurs de Final Fantasy XV derrière, hein, c'est qui sont partis de Square Enix pour faire Luminous Production. Luminous étant le nom du moteur graphique de Final Fantasy XV. D'où le côté, on reconnaît un peu la patte action RPG de Noctis et ses amis de Final Fantasy XV dans le trailer là, de Forspoken. Bon, après, c'est très lointain. Et par contre, il faut rappeler que c'est une exclusivité PS5 et PC, enfin, surtout PS5. Sur console, donc ce sera intéressant de voir quand est-ce qu'il sortira. Ils ont quand même deux exclusivités prévues, la Square Enix pour la PlayStation avec Final Fantasy XVI, qu'on attend tout aussi de voir bientôt, peut-être dans un prochain Square Enix Presents.
Et tu dis que c'est pour très loin, mais c'est 2022, donc c'est pas.
Oui,
c'est pas 2024, quoi.
Alors, est-ce que c'est le moment de parler de la leçon qu'il faut qu'on apprenne tous sur les dates de sortie de jeu si c'est pas prévu pour la semaine prochaine, hormis Outriders, il n'y a aucun jeu qui est prévu actuellement sur aucune console et aucune machine.
On est d'accord. C'est quoi le jeu qui a été décalé qui me désespère ? C'est Gotham Knights qui a été décalé à 2022.
Voilà. Faut arrêter de croire que... Enfin là, il y a eu Covid.
Faut arrêter de croire que les jeux vont sortir, en fait. C'est ça.
C'est ça. Non, mais c'est
arrêtez
ça.
De croire que vraiment. Les jeux vont sortir.
attendez que le jeu il arrive dans une semaine, deux semaines par rapport à sa date annoncée. Et là, vous pouvez commencer à vous dire qu'a priori, il ne sera pas repoussé. Mais avant ça, vous...
Bah, surtout un jeu en 2022, finalement, il y aurait sans doute deux images et demie en plus que ce qu'on a vu. Hein. Donc, ouais. Il ne faut pas se leurrer. 2022, ça reste très optimiste. Hein.
Mmh. Bon. Oui. Dites-vous que, quand même, les jeux... On le dit souvent dans le développement des jeux que la sortie d'un jeu, surtout d'un jeu de cette ampleur, c'est un miracle. Ça, c'est en temps normal qu'ils arrivent
quand
à tenir leur calendrier.
COVID, ouais.
Alors, imaginez maintenant, avec la situation sanitaire mondiale, forcément, c'est plus compliqué. Donc, les dates de sortie, on verra.
C'est bon, vous m'avez bien douché. Très bien, très bien. pour les autres annonces, alors, est-ce qu'il y a un truc qui t'a parlé ? Les Life is Strange, je crois que t'es...
J'ai essayé Life is Strange, le premier. C'était bien, mais c'était très, très lent. Donc, au bout d'un moment, j'ai arrêté. J'aimerais bien m'y remettre. Ça fait partie de ces jeux, en fait, où j'ai envie de m'y mettre. Mais voilà, et je ne l'ai pas fait. Et je pense que Life is Strange Remastered sera peut-être l'occasion. Oui.
Ouais. Tout de suite, un jeu qui ne fait pas pam-pam, boum-boum dès les 30 premières secondes, et tout de suite, c'est un peu lent.
Bah, j'ai fait tous les, par exemple, tous les, tu vois, les Walking Dead, Wolf Among Us, etc. Donc voilà, c'est très lent aussi. C'est juste que à ce moment-là où, je ne sais pas pourquoi je l'ai laissé tomber. Donc ce sera peut-être l'opportunité.
Mais je suis un petit peu dans cette situation aussi. Je me dis peut-être que le remaster sera l'occasion de s'y remettre. J'avais fait, je crois, le premier épisode et puis j'avais pas été beaucoup plus loin. Le remaster serait, parce que mine de rien, Life is Strange aurait pu être une série qui se serait arrêtée en cours de route et elle a continué non seulement avec le 2, mais avec comment il s'appelait, Captain
Midnight. Captain Spirit, l'introduction du 2.
C'est ça, il y avait Before the Storm, et puis maintenant il y en a encore un. Ça commence à faire une grosse série. Donc, mais oui, donc toi, t'es plus fan, Kassim.
Ouais, moi je trouve déjà, premièrement, c'est des jeux qui ont vraiment une patte unique dans le jeu vidéo, parce qu'effectivement, alors ils sont certes un peu plus lents que des jeux d'action, etc., mais ils ont cette atmosphère, dès les premières images du trailer là, de l'épisode True Colors, tu reconnais cette atmosphère paisible, et vraiment tu te sens bien dans ces jeux, même s'ils racontent des choses qui sont très difficiles et très dures, et c'est des jeux qui sont très importants aussi en termes de représentation. C'est vraiment des jeux qui ont pas mal posé des jalons dans le jeu vidéo en termes de représentation. Déjà, le premier épisode commence par on incarne une adolescente, un personnage féminin. Mais il y a, à chaque fois, chaque épisode a vraiment des éléments importants. Le deuxième épisode, sans trop déflorer, il traite d'un sujet qui était particulièrement important aux États-Unis l'année dernière, en termes d'égalité sociale devant la loi. Et devant ses représentants, mais du coup, c'est des épisodes qui sont vraiment très importants à la fois socialement, politiquement, et c'est des jeux que moi j'apprécie beaucoup. Là, il faut savoir que True Colors, du coup, c'est développé par ceux qui ont fait Before the Storm, mais c'est plus
Dontnod qui s'en occupe, puisque c'est Deck Nine.
Effectivement, c'est une licence qui appartient complètement à Square Enix depuis le début, et donc là, Dontnod a décidé d'arrêter, ils partent sur d'autres jeux. Ils ont pas mal de trucs en pré-production, mais ils partent en tout cas sur d'autres licences, et du coup, on verra là. Deck Nine, leur premier jeu, donc c'était Before the Storm, mais du coup c'était une préquelle de Life is Strange 1, donc ils avaient moins la main, je pense, sur l'univers. Là, c'est entre guillemets leur vrai premier épisode, même s'il ne s'appelle pas Life is Strange 3, on comprend que c'est un peu ça. Déjà, ils décident de modifier un peu leur set en n'en faisant pas un épisode, un titre épisodique, mais du coup, ce sera intéressant justement. Et puis le prix, il a l'air un peu plus fort que d'habitude, donc on verra la réception du jeu. Moi, j'attends ça. J'attends
avec curiosité, j'ai l'impression. D'accord. Ok, écoutez, je crois que c'est tout ce qu'il y avait à noter de. Oui, vas-y.
Juste un mot. Tu veux nous vanter juste un mot sur Tomb Raider.
Ah, d'accord. Je croyais que tu voulais nous vanter les louanges, nous chanter les louanges de Balan Wonderworld. Mais
non, pas du tout. Acheter Crash 4. qui a l'air d'être un bien meilleur jeu. Dans Tomb Raider, je trouvais ça vachement décevant que. Ce soit même pas une version optimisée PlayStation 5 Xbox Series, tu vois, enfin même pas et encore, tu sais, ils auraient pu faire au moins le service minimum, tu vois, de, je sais pas, passer le jeu à 60 images secondes 4K ou un truc comme ça, essayer de faire, donner au moins l'apparence d'un quelconque effort de fait, plutôt que juste ressortir les trois jeux ensemble, même s'il y a tous les DLC et compagnie. Là, c'est vraiment le pack, c'est vraiment
bundle,
le service minimum de service minimum, quoi.
Ouais, c'est un bundle.
Et il faut être super motivé quand même, parce que les trois sont quand même très très proches. Donc, c'est vraiment faire trois fois quasiment le même jeu à chaque fois. Donc, ils sont super individuellement, mais la prévue, il faut vraiment être un gros fan. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Patrick? Parce que je sais que t'aimes beaucoup Tomb Raider.
Ouais, j'aime beaucoup Uncharted et donc j'aime beaucoup Tomb Raider, forcément. disons que c'est le genre de jeu que tu mets dans ta collection, et le bundle, qui est vraiment un bundle plutôt qu'une trilogie, il est à 20€ en ce moment, pendant encore une dizaine de jours ou une semaine sur PlayStation Store et Microsoft Store. Donc pour 20€, tu le mets dans ta collection. Je pense que la plupart des gens en ont déjà un ou deux qui ont été donnés dans un PlayStation Plus ou machin, mais bon, peu importe, 20€, tu l'as dans ta collection, si tu veux le refaire un jour, tu l'auras, pourquoi pas. Il passe à 50€ ou quelque chose comme ça dans une semaine, comme je disais. Bon, Ouais, on va dire que c'est pas la news qui... On a déjà passé trop de temps sur la news, je dirais. C'est l'appréciation que j'ai dessus. Donc, voilà pour les news. On va même pas tellement parler de Just Cause Mobile et de Space Invaders réalité augmentée parce que on ne sait rien du tout de ces jeux. Spécifiquement de Space Invaders, on n'en sait rien du tout. Et on va passer aux autres news que je voulais évoquer. D'une part, encore des rumeurs de Bloomberg cette fois-ci que, selon lesquelles la nouvelle Switch aurait la possibilité de passer les jeux en 4K par DLSS, ce qui montrerait que la console utiliserait un nouveau processeur. J'avais fait une vidéo sur la chaîne YouTube pour détailler un petit peu ce qu'on en savait il y a 2 ou 3 semaines. Et bah, ça semble être ce que je pensais qui se confirme. Donc 4K en DLSS sur la télé. Et ça serait dû à plusieurs choses, et notamment le fait que Nvidia ne veut plus produire les vieilles puces, les vieilles puces Switch, les vieilles puces de Tegra X1 qu'utilise la Switch. Ils veulent fermer cette ligne de production et donc ils sont en train de pousser un petit peu Nintendo aux fesses pour qu'ils changent de processeur. On imagine que Nintendo voulait le faire depuis un moment, mais que la Switch se vend tellement bien qu'ils n'ont aucun intérêt à le faire encore, mais peut-être que Nvidia est en train de les pousser à le faire. Donc on va voir si ça se confirme. Et puis, l'autre news intéressante, c'est que Qualcomm serait en train de développer une console de jeu comparable à la Switch, mais basée sur Android, avec la même conception hardware, c'est-à-dire un écran et 2 Joy-Con-like sur les côtés, mais qui fonctionnerait sur Android et qui pourrait se brancher sur la télé. Et on se dit, ouais, mais les jeux téléphone, est-ce que c'est vraiment intéressant? Et la question est évidemment légitime. Mais d'une part, c'est intéressant de voir Qualcomm, qui est un gros gros designer de puces, qui s'intéresserait à cette idée et à sortir un produit consumer. Et puis en plus, l'idée de fabriquer une machine qui joue des jeux mobiles également sur la télé, avec la compatibilité qu'on a aujourd'hui avec les manettes sur Android, la qualité des jeux sur mobile qui augmente tout le temps, et le fait que il semble que Apple soit également en train de travailler à l'idée d'une Apple TV qui serait comparable à une console de jeu, ça pourrait développer l'écosystème mobile, l'écosystème des jeux mobiles un petit peu plus vers des jeux jouables à la manette, et on sait que c'est déjà de plus en plus le cas. Donc je crois que c'est facile de rire de l'idée au premier abord, mais je suis pas convaincu qu'elle soit aussi ridicule que ça au final. Il y a peut-être une porte par laquelle se faufiler pour avoir un produit qui pourrait être intéressant pour certains.
Non.
Non, toi t'es carrément...
Il y a déjà des produits en fait relativement similaires qui existent, parce que finalement tu regardes le Nvidia Shield TV, tu peux acheter une version avec une manette et avoir accès à tout l'écosystème Android sur ton Nvidia branché sur la télé sans avoir besoin d'avoir un téléphone à 1 500 euros. Donc est-ce que ça apporte vraiment quelque chose qui va se différencier sur le marché? Je sais pas, mais en contrepartie, ça existe déjà ces produits, donc je suppose que positionner une console qui fasse uniquement ça, est-ce que ça a fonctionné ou pas, j'en sais rien, mais ce qui fait la force de la Switch, c'est pas tellement le hardware, mais c'est les jeux Nintendo. Donc je pense que s'ils veulent que le produit soit un succès, ils ont intérêt à trouver aussi comment se différencier de ces trillions de produits qui existent déjà sous Android.
Ouais. Il y a tellement de problème dans cette idée que je sais pas par où commencer. Non, mais en fait, déjà, oui, alors c'est intéressant que Qualcomm veuille se lancer dans le marché grand public, puisqu'actuellement ils sont que fournisseurs de puces pour les fabricants, quoi. Donc c'est intéressant qu'ils veuillent être en première ligne dans Amazon ou sur, je sais pas, ou à la Fnac, voilà, que tu puisses acheter une console Qualcomm, ce serait intéressant dans l'idée. Mais derrière ça, j'ai l'impression que c'est une énième boîte de tech qui ne comprend pas le jeu vidéo et qui se lance quand même, enfin qui essaye, enfin qui réfléchit à se lancer sur ce marché en pensant que la Switch, en faisant une Switch qui serait plus puissante et 4K et avec machin, bah oui, forcément ça va mieux se vendre, et en plus nous on aura les jeux Android, alors c'est trop cool, et regarde les jeunes ils jouent sur Fortnite, donc forcément ça va bien marcher, donc on va se lancer, quoi. Alors que le jeu vidéo, ça ne fonctionne pas comme ça. Comme vous l'avez dit, déjà, il y a les activités Nintendo qui sont là pour vendre la Switch. C'est l'attrait principal. Et puis, j'ai vraiment du mal à voir l'intérêt de cette éventuelle console Qualcomm face à un smartphone. Alors, tu pourras dire, j'allais dire un smartphone de la même génération. Admettons que la console soit plus puissante sur l'année 1, comme ça, là, voilà. Mais l'année N plus 1, le smartphone, le Galaxy S39, sera plus puissant que cette console Qualcomm. Et les deux appareils tourneront sur le même écosystème, c'est-à-dire Android. Et c'est là aussi où il y a un problème fondamental. C'est que personne ne développera de jeux pour cette console Qualcomm. Ils développeront des jeux pour l'écosystème Android en général. Et donc, tu n'as pas cette précision dans le développement d'un jeu qu'apporte d'habitude une console avec un écosystème relativement fermé. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui t'empêcherait de juste prendre un Galaxy S31 et de juste rajouter des manettes sur les côtés comme les Razer, les manettes Razer qui existent et qui sont juste des manettes un peu en forme de Joy-Con que tu mets sur le côté de ton smartphone et qui sont déjà ultra pratiques et t'as pas besoin d'acheter un appareil supplémentaire, tu vois, pour profiter de tout ça, et tu profites de tout Android et tu profites du cloud gaming, de toutes les applications de cloud gaming et de éventuellement l'émulation, etc. Et t'en profites sur ton smartphone et t'as pas besoin d'un appareil supplémentaire pour ça, quoi.
Je dirais, ouais, pas besoin d'un appareil supplémentaire. La Switch, c'est un appareil supplémentaire.
La Switch, c'est une console de jeu, c'est
bien
pas
sûr.
Une console
Android,
tu vois.
Non, mais c'est ça. C'est exactement ma conclusion à cette histoire. Et dans la chatroom, ça se gosse un petit peu aussi. C'est facile de taper sur Qualcomm sur ce point. Il n'y a que Disque Addict qui défend vaillamment les jeux mobiles. Moi, je vais revêtir mon costume d'avocat du diable en faisant mon petit jiggle de c'est l'avocat du diable. Et le diable, en l'occurrence, c'est Qualcomm. Mais je crois que ça dépend de comment ils approchent le projet. Parce que comme vous l'avez dit, comme Daniel disait, il y a énormément de produits de téléphones qui ont déjà tenté la console hybride. En fait, ce qui déterminera si la console peut être séduisante ou pas, je ne dis même pas qu'elle trouvera le succès, c'est est-ce qu'ils sont en train de faire un téléphone déguisé en console ou est-ce qu'ils sont vraiment en train de faire une console ? Et c'est
oui,
ça qui est essentiel. Et ils disent dans les rumeurs d'Android Police, cite par exemple le fait qu'elle est beaucoup plus épaisse qu'un téléphone parce qu'elle a une plus grosse batterie et un processeur qui tourne un petit peu mieux que les téléphones ultra fins. Ça me laisse penser qu'ils font vraiment une console. Il se trouve qu'elle tourne sous Android parce qu'évidemment, c'est plus pratique de la faire tourner sous Android, mais ce n'est pas prévu pour être « Oh, c'est ton téléphone, mais ça peut aussi être une console. » Non, c'est une console. Elle risque d'être un peu moins chère que la Switch. Ils visent visiblement les $300. Bon, ça, j'aimerais que ça soit un petit peu moins cher encore. Mais le fait de pouvoir la brancher sur la télé, de l'avoir en portable en plus de ton téléphone, il y aura peut-être des petites fonctionnalités de téléphone, mais ce n'est pas l'essentiel. S'ils se concentrent sur le fait de faire une bonne console, et je connais pas bien l'écosystème Android, mais si les jeux Android peuvent tous profiter des manettes, parce que c'est vraiment ça la différence entre une console et un téléphone, c'est le fait d'avoir des manettes et le fait de contrôler son jeu à la manette, bah je crois qu'il y a peut-être une possibilité. Et en disant ça, la question vraiment à se poser, c'est pourquoi acheter ça plutôt qu'une Switch?
Non, mais c'est qu'en fait, en gros, enfin la seule vision où je vois un produit qui aurait tendance à pouvoir marcher ou en tout cas être intéressant à analyser, c'est s'il se lance vraiment dans une console de jeu, et ça veut dire signer des partenariats avec des développeurs pour créer des exclusivités sur cette plateforme qui aurait un store qui ne serait pas disponible sur le reste de l'écosystème Android, tu vois, enfin quelque chose de propre à cette console.
Un des trucs dont il parle, c'est d'avoir l'Epic Game Store, l'application Epic Game Store incluse directement dans le... Donc, ils auraient peut-être la force d'Epic derrière. Je ne sais pas. Moi, je crois qu'il y a... J'y crois pas. Je vais être honnête. Je ne pense pas que c'est un coup assuré. Mais je crois qu'il y a peut-être un truc à faire. Ce n'est pas que ça va remplacer la Switch. Mais il y a peut-être un truc à faire. Peut-être si le prix est juste. 300 €, ça me paraît trop près de la Switch pour être vraiment viable. Et c'est mal positionné. Mais peut-être que si c'est un peu moins cher...
Moi, le prix ne me dérange pas. Si c'est 300 € et que tu as des jeux qui n'existent pas sur Switch, mais qui sont disponibles sur cette console-là, et qu'en plus, tu as les services de cloud gaming, genre Game Pass et compagnie...
Tout à fait, oui.
Qui se connectent en 5G ou en 4G, ça peut avoir son intérêt.
C'est exactement ça. Le cloud gaming est aussi un élément important que j'avais mis dans mes notes et que j'oubliais, qui pourrait faire que ça peut être... Tu vois, si ça devient... La machine a Luna / Stadia / Game Pass. Peut-être que ça peut donner quelque chose. Je ne sais pas. Bon. Bref. Voilà pour cette rumeur-là. On va passer à quelques news rapides sur le mobile. Rocket League Sideswipe arrive sur mobile. C'est une version de Rocket League après le rachat par Epic qui arrive sur mobile, qui ressemble pas du tout... Oula, j'ai du bruit qui vient dans les oreilles. Qui ressemble pas du tout à Rocket League sur PC, mais qui, bon, est une idée intéressante. Pourquoi pas ça colle bien en free-to-play à la formule du jeu qui peut être porté du PC au mobile. On a aussi Magic the Gathering Arena qui arrive sur mobile le 25 mars. C'est la version 100% Magic équivalente du jeu de cartes sur mobile. Il y a Niantic qui a annoncé un nouveau partenariat avec Nintendo. Vous savez, c'est Pokémon Go, hein, Niantic. Et ben, ils sont en train de faire un jeu basé sur Pikmin. Ça me paraît un petit peu moins, là aussi, coup assuré que Pokémon, mais bon, pourquoi pas. Et puis, quelques chiffres du côté du mobile, pour ceux qui pensent que le mobile reste une petite partie du jeu vidéo. Genshin Impact est le jeu qui a atteint le milliard de dollars de revenus sur mobile uniquement, on ne parle pas de la version PS4, le plus rapidement. En 6 mois, ils ont rentré 1 milliard de dollars par l'App Store et le Google Play Store. PUBG, qui fait rire beaucoup de gens sur mobile depuis longtemps, en 3 ans, il a eu 1 milliard de téléchargements. 1 milliard, là encore, on ne compte plus les milliards. Tencent a rentré 20 milliards d'euros en 2020, rien que pour les jeux vidéo. Et on note que ByteDance, vous savez, c'est ceux qui font TikTok, ont racheté le studio de Mobile Legends, je ne me souviens plus du nom du studio, je vais essayer de le retrouver, mais pour 4 milliards de dollars. Mobile Legends, c'est un MOBA, et je pense que le nom était le premier de ceux qui, vous savez, c'est le bingo des noms de jeux mobiles. On met Legend, Honor et deux off. Points combat et off et
off au milieu.
Mobile, c'est ça. Donc, ça fait quelques chiffres. Je ne sais pas si ça vous inspire quelque chose, mais moi, ça m'a. L'arrivée de Rocket League est intéressante, et puis le milliard pour Genshin Impact, ça confirme encore son succès, quoi. Bon, bah écoutez, le mobile ne vous inspire pas tellement, donc on va partir sur les news de vrais joueurs de consoles. Astérix et Obélix arrivent en 2021, et ben vous savez quoi, je ris à peine, parce que c'est notre ami Julien Hubert, vous savez, Julo, l'ancien de Gameblog, qui travaille maintenant chez Microïds, qui partageait cette news. Et ben vous savez quoi, c'est même pas si moche que ça. C'est un beat'em up à la Streets of Rage, qui parlera évidemment à Dany. C'est baffez-les tous, mais c'est hyper beau, c'est bien foutu. Et pourquoi pas ? Moi, je dis vraiment, je serais peut-être prêt à l'essayer s'il était sur le Game Pass, alors que traditionnellement, les jeux basés sur ce genre de licence, ce n'est pas forcément mon truc. Mais regardez le trailer pour voir comme c'est beau, ça me paraît pas si mal, moi.
L'animation a l'air cool. Je voulais juste mentionner le fait que ça a été le one more thing de l'événement Actu Gaming Direct qui a eu lieu hier soir au moment où on enregistre. Et qui était vraiment très cool, enfin que je recommande. Ça, c'est un stream de 1 heure qui était dédié donc aux jeux français ou développé, en tout cas aux jeux francophones, parce qu'il y a eu quelques studios belges et canadiens, mais enfin québécois plutôt. Mais c'était vraiment cool. Enfin c'était voilà 1 heure de présentation de jeux vraiment indépendants, enfin ou de petite ampleur, même si au milieu il y a eu Deathloop, puisque Deathloop est dans toutes les conférences de tous les éditeurs depuis 15 ans. Mais donc ça c'était un peu obligatoire, mais sinon il y a eu pas mal de petits jeux présentés et c'était vraiment très sympa comme événement. Donc je recommande le visionnage si vous êtes intéressé. Il y a eu plein de petits bons jeux français qui avaient l'air très cool, qui arriveront dans les années à venir, dont Astérix Obélix.
Très bien. Game Actu, c'était le Game Actu Live, c'est ça ?
C'était AG French Direct, Actu Gaming.
Actu Gaming.
AG French Direct.
Très bien. Bon, d'autres petites news, on a Tekken 7. Alors je parle de Tekken 7 parce que j'aime Tekken 7, mais il y a Libia Sobieska qui arrive. C'est la première ministre polonaise dans le monde de Tekken, hein, bien sûr. On sent que le jeu fonctionne bien en Pologne. Et la raison pour laquelle j'en parle, c'est parce que c'est une karatéka Shotokan. Et allez voir le trailer et son kata qui est tellement beau. Bon, moi j'ai fait du karaté Shotokan dans une autre vie quand j'étais très très jeune. et donc ces mouvements secs et puissants, ça m'a donné envie de relancer Tekken, ce que j'ai fait d'ailleurs la veille de l'arrivée du perso en DLC. Heureusement, parce que sinon je l'aurais acheté juste parce que le kata était beau. Donc voilà.
Ah, ça fait penser à un jeu qui était récemment présenté, bah, d'ailleurs qui était à l'AG Direct aussi. Sifu,
oui, bien sûr, de Absolver Team. Et...
les animations de combat, c'est un peu ça aussi. Tu sens le punch, quoi.
C'est ça.
Oui, c'est pas du tout le même sport.
On parle de Kung Fu Wushu, de Kung Fu en tout cas, pour Sifu.
Oui, je parlais
là, c'est du karaté, des coups, Shotokan, mais tout à fait, ouais.
L'impact des coups de Patrick quand il faisait du karaté était à peu près similaire. Hein. Je pense que Lydia Sobieska devrait lui passer un coup de fil pour qu'elle apprenne un peu son style.
Hey, tu ne me connaissais pas à l'époque, Dani, mais j'ai cassé des tuiles sur la présentation à l'école, la présentation de fin d'année à l'école.
Ouais, mais tu dis pas comment tu les as cassées. C'est en les laissant tomber depuis le cinquième étage, c'est ça?
Danette, je suis découvert. Donc voilà, Lydia Sobieska est dans Tekken 7 et Sherlock Holmes a présenté Chapter 1 a un nouveau trailer, enfin son premier trailer, et c'est tellement lent, je sais même pas pourquoi j'en parle. C'est peut-être très bien comme jeu, mais ça a l'air tellement mollasson que ça m'a perdu en route, moi. J'ai trouvé que tous les combats, enfin tout a l'air un petit peu chiant. Bref.
C'est un jeu Frogware, donc déjà on verra si la sortie du jeu n'est pas plus passionnante à suivre que le jeu lui-même.
Comment il s'appelle déjà ce jeu qui a été, comment dire, qu'ils ont...
C'est The Sinking City.
Ouais, c'est ça. Bon, allez, quelques news pour conclure. On a Amazon Games qui ne lâche pas l'affaire, qui a ouvert un nouveau studio à Montréal avec en gros l'équipe de Rainbow Six Siege. Donc c'est intéressant parce qu'on a eu vent des difficultés nombreuses de Amazon dans le domaine du jeu vidéo ces derniers mois. Et ben ils lâchent pas l'affaire. Nvidia est en train de doubler le prix du GeForce Now qui sort de bêta. Ceux qui sont déjà abonnés gardent le prix des Founders, de la Founder Edition à $5 par mois, mais le prix sera désormais de $10 par mois, enfin 10 euros. Epic est en train de lever de l'argent, ils lèvent 1 milliard encore, leur valeur boursière est de 28 milliards maintenant. J'aime bien donner des chiffres comme ça de temps en temps pour avoir des idées de ce que valent les choses. Si vous voulez acheter des jeux sur PS3 ou PS Vita, je suis désolé de vous dire que ça sera bientôt impossible, puisque les stores vont fermer leurs portes, même sur les consoles. Ils étaient encore disponibles sur les consoles. C'est un peu tristoun quand même, parce que la PS3, encore, il y a eu deux générations de consoles après, donc ok, pourquoi pas. Mais la PS Vita, moi, j'ai encore la mienne dans mon placard, et peut-être qu'un jour, je la rallumerai. Eh ben, si je n'ai pas acheté les jeux maintenant, je ne pourrai plus les acheter. Enfin, c'est cet été que ça ferme. Ben, je ne pourrai plus les acheter. Bon, on pourra les acheter en physique, mais ce n'est pas la même chose. Et enfin, GameStop a réussi à faire des bénéfices sur le dernier trimestre. Alors, pas sur l'année, mais sur le dernier trimestre. Ils ont fermé 700 magasins quand même, dont toute leur branche nordique. Mais c'est intéressant de voir qu'ils ont réussi à faire des bénéfices. Est-ce que GameStop... Alors, c'était le trimestre des sorties de consoles, donc il y avait peut-être beaucoup de gens qui allaient dans les magasins ou qui essayaient de les acheter à distance, comme Kassim qui a eu des problèmes avec sa Xbox Series X. Mais j'aurais jamais pensé que GameStop pourrait faire des bénéfices, quoi. Donc ça m'a un petit peu surpris, même si c'est sur un seul trimestre. Quelques réactions à cette série de news?
On va voir GameStop. Ce qui va être intéressant à suivre, c'est l'évolution de leur deal avec Microsoft qu'ils ont signé juste avant la sortie de la Xbox, justement. Qui leur permet en fait de toucher de l'argent sur la vente de jeux dématérialisés sur les consoles qu'ils arrivent à vendre à travers GameStop en fait. Ce sera justement peut-être une bonne façon de compenser la croissance du dématérialisé pour GameStop, malgré la fermeture des boutiques et le fait que les gens achètent globalement de moins en moins en physique, en particulier depuis 2020, on se demande pourquoi. Mais en tout cas, ce sera intéressant à suivre.
Ouais.
Et puis, je trouve ça triste pour la fermeture des stores. Bon, après, je ne suis jamais de ceux qui crient sur le fait que les stores de jeux dématérialisés, là, de PlayStation 3 et PS Vita, jamais dans ceux qui crient qu'aujourd'hui, on ne fait que louer nos jeux et que, oh là là, c'est triste. Qu'est-ce qui arrivera le jour où tous les serveurs fermeront et Steam fermera? Je sais pas, genre, c'est pas trop mon truc. Après, c'est vrai que j'aimerais que Sony s'investisse un peu plus dans l'historique de ses consoles. C'est quand même ballot pour
question de préservation.
Une société qui...
Ne serait-ce que pour une question de préservation de...
Oui, c'est ça.
Ouais.
C'est dommage pour une entreprise qui fait une si belle lettre d'amour à son histoire avec Astrobot au lancement de la PlayStation 5 et qui dans le même temps justement passe un peu un coup de balai sur son histoire de l'autre côté. Voilà.
Ouais, je suis avec toi émotionnellement, mais en même temps, je pense qu'ils ont les chiffres derrière. Je pense que le nombre de personnes qui lancent leur PS Vita et accèdent au store, tu vois,
non, chaque année... Non, mais j'aimerais bien que les jeux soient plus disponibles plus facilement en rétrocompatibilité, par exemple.
Ouais.
Tu vois, ça c'est y avoir accès sur une PS5, quoi, par exemple.
Ouais.
Et pouvoir les acheter sur PS5, ce serait tellement bien.
Ouais. Ça devrait être possible de faire un émulateur PS Vita sur PS5, hein, mais...
Bon, après, il n'y a pas d'intérêt pour Sony, quoi.
Ouais, mais... ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et puis, deux dernières news. Il y a un petit court-métrage basé sur Animal Crossing, un court-métrage d'horreur basé sur Animal Crossing que je vous encourage à aller voir. Je le mettrai dans la newsletter. Donc, vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur notepatrick.com. Mais franchement, enfin, ne le regardez pas si vous avez un peu peur. C'est hyper bien foutu. Moi, j'ai regardé la nuit, je l'ai regretté. C'est 6 minutes seulement. Et ça s'appelle Don't Peek. Vous pouvez aller le chercher sur YouTube ou alors, comme je le disais, sur la newsletter. Mais franchement, si vous êtes type flippette comme moi, ça marche super bien. Je vous encourage à aller le regarder. C'était un gros moment d'angoisse pour moi. Enfin bref, je ne vais pas vous le gâcher, mais c'est vraiment pas mal du tout. Animal Crossing.
Déjà qu'en fait, les 1 an du crossover entre Marie de Animal Crossing et Doom Eternal.
Il était excellent celui-là.
C'est un petit peu une ambiance, même énergie, on va dire. Et puis l'autre chose, c'est que finalement, les boutiques de jeux vidéo, et les rayons de jeux vidéo pourront rester ouverts pendant cette période du confinement. Ça m'a marqué parce que je me souviens de. Enfin, comment dire, ça m'a vraiment montrer à quel point on est toujours prêt à faire des sacrifices quand c'est pas les sacrifices de nos trucs à nous. Parce que oui, je comprends que le jeu vidéo est important et tout ça, mais au moment où le gouvernement a annoncé, au-delà des controverses sur la manière dont tout est géré, mais quand le gouvernement a annoncé oui, certains trucs seront ouverts et certains trucs seront fermés, tous ceux qui sont fans des trucs qui sont fermés crient au scandale. Et donc, je sais pas, ça m'a marqué parce que c'est vraiment... On veut toujours que quelqu'un fasse des efforts tant que c'est pas nous, quoi. Et franchement, pour le jeu vidéo, vous savez comme j'aime le jeu vidéo, ok, c'est important de les acheter en physique, mais on a des alternatives, donc ça me paraissait pas être la fin du monde que les boutiques, on peut les acheter on peut se les faire livrer, on a les trucs numériques. Bon, bref, ça m'a... Et je comprends que c'était arbitraire, mais ça m'a marqué. Bref, le lobbying a marché, les boutiques resteront ouvertes.
Disons que ça devenait ridicule au moment où la musique et les livres étaient autorisés et pas les jeux vidéo, tu vois. Enfin, quand t'as toute ta FNAC qui ouvre à 90%, mais il y a juste le rayon jeux vidéo qui est fermé, ça devient un peu ridicule.
Ouais, mais les jeux vidéo, c'est pas de la culture, voyons. C'est
ça. Mais je suis d'accord que c'est complètement logique comme argument. Mais si l'idée est de faire en sorte qu'il y ait moins de gens dans ces magasins, si tu as certains rayons qui sont fermés, ça veut dire qu'il y a moins de gens qui ont des raisons d'y aller. Et oui, c'est un peu arbitraire, mais du coup, si on écoute tous ceux qui ne sont pas contents parce que leurs rayons ferment, autant ne rien fermer. Donc, je ne sais pas, ça va.
Ou alors, autant tout fermer équitablement. Enfin bref, mais oui.
Ouais, ok. Mais il y a tout fermé équitablement, mais à ce moment, ça pose un problème dans un autre domaine qui est celui de l'économie. C'est possible. Je ne dis pas que ce n'est pas possible.
Non, mais après...
On comprend l'intérêt
après,
de...
Bon. Mais après, c'est un gros débat. Et moi, je ne suis pas épidémiologiste, contrairement à notre président de la République. Donc, je ne peux pas me... Voilà, je ne peux pas...
Non, mais tu vois, c'est juste le truc que... Je me souvenais du moment où c'était la question des librairies et tous les libraires se sont levés.
Oui,
et et du coup, c'est ça qui m'a marqué plus qu'autre chose, c'est que quand on dit ok, il faut faire des efforts, bon, vous, on va vous demander cet effort, personne veut jamais le faire quand ça nous concerne. Donc bon, peut-être qu'en l'occurrence, c'était complètement pas justifié dans le domaine du jeu vidéo, et peut-être que c'était complètement pas justifié dans le domaine des librairies il y a quelques mois, et peut-être que c'est jamais justifié, mais à ce moment, on fait jamais rien, tu vois, je sais pas, bref, ça m'a marqué. Mais en tout cas, les rayons seront ouverts, donc les fans seront contents. Et voilà pour ce rendez-vous jeu. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. On a fait un petit peu plus long que d'habitude, donc je vais faire très vite pour proposer à Kassim et Dany de nous dire où on peut les retrouver. Dany, où es-tu sur Internet ?
Alors, je suis sur Twitter et mon handle, c'est @notdany, N-O-T-D-A-N-Y, comme d'habitude.
Kassim, quel est donc ton handle sur Twitter ?
Je vois pas de quoi tu parles.
On peut me retrouver très original ton handle.
Oh, merci. @notcassim, N-O-T-C-A-2-S-I-M. Et sinon sur frandroid.com où je parle notamment de jeux vidéo, mais pas que.
Magnifique, merci à toi. Pour ma part, c'est NotPatrick. Il y a une sorte d'épidémie de notes un petit peu partout dans ce podcast. Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi retrouver les liens vers tout ce que je fais sur notepatrick.com, y compris vers YouTube où dans la dernière vidéo, je parle de la manière dont les business models saucissonnent, tronçonnent, découpent les jeux vidéo aujourd'hui. On nous vend tout en DLC, alors qu'évidemment, il y a longtemps, ça n'était pas le cas, ou peut-être que... Bref, j'en parle dans une vidéo sur YouTube qui a provoqué moult débats. C'est le buzz total. Donc, je vous encourage à aller regarder ça aussi. Et bien sûr, si vous aimez l'émission, à aller sur Patreon, patreon.com/rdvjeu pour la soutenir. Si vous écoutez depuis un moment, comme je le disais, et que vous passez un bon moment en notre compagnie, eh ben, je vous encourage à aller soutenir ou au moins regarder ce que propose le Patreon sur patreon.com/rdvjeu parce que c'est comme ça que l'émission peut être faite. Merci à tous ceux qui la soutiennent. C'est tout pour cette semaine. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sauf si mon deuxième enfant arrive entre-temps, on aura un programme de remplacement pour l'émission plus ou moins pendant le mois. Donc rassurez-vous, le rendez-vous jeu continuera au moins un épisode sur deux. Mais a priori, ce n'est pas prévu avant une dizaine de jours. Donc normalement, la semaine prochaine, on sera encore là. Et je vous donne rendez-vous à ce moment. Ciao, ciao.
Hey marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast, then net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.